Eh bien, bonjour à tous et merci de vous avoir rejoint pour cette conférence. Alors, en préambule, j'aimerais juste préciser que au réveil ce matin, je n'avais pas prévu d'animer cette conférence. Et puis, l'animatrice, atteinte d'une kérangalité aiguë sans doute et d'une forte fièvre, a déclaré forfait à son grand désespoir. Donc, ce sera au pied levé que je vais m'attaquer au pont de Maëlys de Kerangal. Donc, je vous prie d'excuser si parfois je vais poser 2, 3, 4 fois la même question. Mais bon, je l'ai prévenu. Voilà. Donc, je remercie très sincèrement Maëlys de Kerangal d'avoir rejoint nos salons aujourd'hui. Elle fait l'aller-retour de Paris pour venir nous voir et ça nous fait très plaisir. Ça me fait à moi d'autant plus plaisir que Maëlys de Kerangal, c'est pour moi un auteur que je connais depuis longtemps. Ça fait même 10 ans. Je me souviens encore avec beaucoup de netteté ma découverte de « Je marche sous un ciel de traîne » qui était paru chez Vertical, un livre que j'avais énormément aimé. Et on a toujours beaucoup de bonheur quand on est un libraire à découvrir un auteur. On a l'impression un peu qu'ils vous appartiennent ensuite. Et on fait très attention à les suivre avec beaucoup d'inquiétude, avec le sentiment qu'ils vont vous échapper ou qu'un jour la célébrité va les gagner. Ça y est, la célébrité vient de tomber sur Maëlys de Kerangal, qui désormais n'est plus un auteur à défendre puisque... elle rencontre un très beau succès avec son dernier livre qui s'appelle « Naissance d'un pont » et qui est toujours chez Vertical, preuve que c'est un auteur fidèle. C'est une qualité dans ce métier. Alors, Maëlys de Kerangal a produit quelques romans, écrit quelques romans, donc depuis 2000. Le précédent s'appelait « Corniche Kennedy », on en avait aussi pas mal parlé, il est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. Elle a fait un petit recueil que moi je tiens pour un très très grand livre qui s'appelle « Ni fleurs ni couronne ». Qui, à mon avis, est une sorte de moment un peu clé dans son œuvre, à partir duquel elle devient Maëlys de Kerangal, je pense. Et puis, elle a participé à 3 ouvrages collectifs, notamment un ouvrage sur le sport, un livre dont on a peu parlé, mais un livre dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais un livre qui montre que Maëlys de Kerangal a plein de centres d'intérêt. Et par ailleurs, elle appartient à cette espèce de groupuscule qui s'appelle un culte, qu'elle a rejoint en cours de route, et dont elle nous parlera peut-être un peu tout à l'heure. Donc c'est un auteur inculte que nous accueillons ce soir, après avoir accueilli Mathieu Arnaudi et Bruce Bégou cette année. Et Mathias Sénard, j'oubliais. Si vous avez des questions à poser, donc on le fera à la fin, n'hésitez pas. Maëlys de Kerangal répond aux questions, je viens de l'interroger devant une caméra, elle a été parfaite. Alors, Maëlys de Kerangal, je ne vais pas vous faire sa biographie. Si vous munissez du dernier numéro du Matricule des Anges, vous découvrirez, vous apprendrez comme moi des tas de choses sur son enfance, sur sa famille. Donc, je vous laisse les découvrir. Avec un nom pareil, on l'imagine effectivement descendre de corsaires malouins. C'est sans doute pas très loin. En tout cas, elle a grandi en grande partie au Havre, qui était déjà le décor d'un de ses très jolis livres qui s'appelait
Dans les Rapides.
Dans les Rapides, voilà. Un livre qui avait été sélectionné d'ailleurs dans le prix Mola. Et donc, elle a grandi au Havre, à l'ombre du pont de Tancarville. Et on peut se demander si, effectivement, dans son inconscient de futur écrivain, quelque chose n'a pas commencé à germer, qui apparaît désormais avec Naissance d'un pont. Alors, Maëlys de Kerangal, on va se lancer tout de suite dans les questions. Je vais arrêter avec mes généralités. Moi, j'ai eu le sentiment, en recevant ce livre, avant l'été, comme ça, on l'a reçu sans précaution, sans prévenir. On savait juste qu'il y avait un Maëlys de Kerangal, on était très contents. Et on a le sentiment qu'avec ce titre-là, il y avait une sorte de défi. Un défi que vous transmettiez d'ailleurs au libraire, puisqu'il fallait véritablement accepter qu'on allait vendre un chantier. Je me vois régulièrement en train d'exposer à des clients, c'est l'histoire d'un pont. Et de sentir qu'il faut lutter malgré tout contre une appréhension qui est comment un pont peut être le héros d'un roman. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce roman qui est à la fois un chantier, qui est un livre sur un chantier, d'où est-ce que c'est venu ?
Bon, d'abord, le fait de travailler sur un chantier, c'est intéressant parce qu'un chantier, c'est toujours un moment qui est voué à la disparition. Un chantier, c'est par essence, c'est voué à disparaître. Et il y a quand même l'idée que les bâtiments contiennent tous le chantier dont ils ont été l'objet. Donc c'est d'abord un rapport à l'espace, en fait. Et moi, je trouvais ça... J'avais envie... Enfin, le livre, il est né de l'envie d'écrire un livre d'action, un livre où l'action, le faire... soit un peu au centre, hein. Un livre qui s'éloigne de la dimension un peu spéculative de la vie et où on soit quand même dans un rapport au réel, à quelque chose comme ça de pragmatique, on va faire quelque chose. Ça croisait aussi l'envie de faire un livre du coup assez épique avec le paradigme un peu des westerns, c'est-à-dire un livre un peu en grande focale avec du monde, des matières, des paysages, du bruit, des héros, etc. Le chantier, c'est un bon dispositif aussi parce qu'un chantier, c'est aussi le... Ça peut fonctionner comme un micro-monde. D'abord, en termes donc, de temps, c'est un temps réduit. Il y a une dramaturgie quand même sur un chantier, c'est-à-dire que, évidemment, ça s'ouvre, hein, il y a des aléas, et puis évidemment, ça se referme un jour, ça n'existe plus. Et je trouvais que il y avait comme ça une dramaturgie, ça fonctionnait comme un micro-monde, un microcosme. Donc travailler sur un chantier, c'était important. Alors après, pourquoi le pont ? Et par exemple, pourquoi pas la tour ou pourquoi pas, je sais pas, un autre. Bon, alors le pont, il y avait l'idée au départ, vraiment très très anciennement dans ce livre, de ce qui m'intéressait énormément, c'était un motif assez politique, qui est le motif de la concession, du compromis, du fait de comment on trouve un accord, comment on s'arrange, comment on fait des concessions dans la vie. Alors il y a cette histoire de concession d'autoroute, concession de pont, etc. Ça me faisait penser à ça. Mais c'est l'idée que voilà, pour passer, on doit se délester de quelque chose. Pour passer, on doit payer. Pour passer, on doit finalement abandonner quelque chose qu'on possède. Et je me disais, j'en avais un peu assez. J'étais beaucoup moins séduite par la radicalité, donc par une espèce d'esthétique comme ça assez radicale qu'on rencontre beaucoup dans la vie, surtout en littérature, en politique, en esthétique. Et moi, je disais, mais en fait, la raideur, la rigidité de la radicalité me plaisait plus du tout. Je me disais, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Pour qu'il y ait un mouvement, pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on lâche quelque chose pour posséder, pour rencontrer quelque chose ou quelqu'un, il faut quand même un peu se déchirer. Et je trouvais que le pont, finalement, c'était la meilleure incarnation concrète de cette idée qui est quand même, alors pour le coup, un motif plus intellectuel. Alors, ce motif-là, plus l'envie d'un livre épique, ça donne le chantier.
En même temps, le pont, parmi les bâtiments que vous avez pu choisir, c'est quand même, à la fois, c'est du solide et en même temps, c'est très aérien. Alors, vous avez un rapport à l'espace qui est très singulier, depuis le premier livre.
Ouais.
Hein, c'était le premier livre, il y avait quelque chose qui était marquant, c'était quand même ce rapport à l'espace, ce rapport aux nuages, ce rapport, etc. Est-ce que ça aussi, ça a intervenu, cette façon de dire que vous allez construire quelque chose qui allait se déployer dans l'espace ?
Oui, c'était très important. Le fait de, par exemple, moi je considère que ce livre, c'est un roman de fondation, au sens où les westerns sont des films de fondation. C'est-à-dire, des personnes convergent dans un espace et vont y construire et ériger quelque chose. Et il y a toujours quand même aussi cette idée que ces personnes qui vont construire des édifices, où que ce soit sur la planète, des personnes qui sont elles-mêmes toujours déracinées et un peu une espèce de population migrante. Alors il y a évidemment un recrutement, une main-d'œuvre locale, mais sinon les gens sont toujours en train de migrer, quoi. Eux sont de passage, mais les structures, elles vont rester, elles vont se fixer dans le paysage. Et ce qui a été bien pour moi, c'est que le livre, je l'ai porté assez longtemps. C'est un livre que j'ai commencé il y a 5 ans, et depuis que je l'ai commencé, j'en ai écrit d'autres, dont Corniche, dont Dans les Rapides. Et en fait, je me suis beaucoup posé ce qui a beaucoup accompagné la. Au départ, il y avait vraiment l'aventure et puis l'histoire du compromis. Et très vite, tout ça a convergé vers un livre assez. Où la question du paysage est devenue centrale, et donc la question de l'espace, c'est-à-dire un espace très clivé, au départ il y a un espace très clivé, et comment le pont va ou non réussir à, non pas à souder deux territoires qui n'ont rien à voir, mais à créer un troisième territoire, et pas forcément sur un mode dialectique, mais sur un mode juste de circulation latérale, pas par le haut, quoi. Comment ça s'étend ? Ça m'intéressait beaucoup, parce que depuis le départ, dans mes livres, tout part des lieux. En fait, les lieux commandent, c'est eux qui commandent les situations, c'est parce qu'on est quelque part qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment dans Corniche Kennedy, tout le roman, il tient uniquement parce qu'il y a un dispositif spatial.
Et puis c'est quand même, dans Corniche Kennedy, c'est le plongeon, c'est aussi la plongée dans l'air.
C'est la aussi plongée ce qui dans l'air.
Parce qu'on sent ouais, la mouche, ouais. Ce qui vous intéressait, c'était...
D'ailleurs, il y a une petite séquence de plongeon dans Naissance
d'un
pont.
Oui, donc c'était un petit rappel.
C'est un rappel.
Mais il y a quand même aussi une vision de l'espace qu'il faut remplir, qu'il faut habiter.
Qu'est-ce que c'est aller peupler un endroit ? Voilà, c'est en ce sens-là, il y avait cette histoire de western et de fondation. C'est vraiment comment on habite l'espace, qu'est-ce que ça veut dire habiter. Alors, il y a la symbolique du pont dans un registre très métaphorique de lien entre. Ça m'intéressait moins que cette histoire de paysage. Et pour moi, le fait qu'il y ait des structures comme ça qui se fixent dans le paysage. Par exemple, j'ai été à San Francisco pour écrire le livre. Voilà, j'ai fait deux séjours là-bas et j'ai eu accès à des photos d'Ansel Adams qui ont été prises avant la construction du Golden Gate Bridge qui a eu lieu entre 1933 et 1937. Et c'est fou comme il manque quelque chose. Quand on voit les photos de la baie, il manque le Golden Gate. C'est-à-dire qu'en fait, les structures, en tout cas les ponts, sont des formulations d'un paysage. C'est-à-dire qu'elles sont des espèces doivent interpréter, formuler le paysage. C'est-à-dire qu'elles viennent prendre naturellement une place qui leur a été réservée. Donc, pour moi, la question du paysage a été très centrale. Enfin, et notamment... dans un paysage très clivé, donc nécessairement très clivé comme celui
oui, parce
de cette
que,
ville.
Voilà, le principe, c'est que c'est une ville, mais l'arrivée d'un pont, c'est pas un monument qu'on élève dans la ville, c'est quelque chose qui va rassembler des endroits, qui va détruire aussi quelque chose,
qui va effacer. Ouais.
Voilà, qui va modifier. Alors vous avez ce rapport à l'espace aussi, mais ce qui est étonnant, c'est que tout a l'air exact dans ce que vous racontez, et en même temps, vous avez choisi un espace imaginaire. Alors qu'est-ce qui fait que vous avez choisi d'être à la fois totalement dans le vrai? Et en même temps, totalement dans l'imagination. Pourquoi ne pas avoir choisi ou un pont qui existait, ou alors une ville réelle? Pourquoi avoir choisi d'inventer cette ville, déjà avec ce nom étrange de Coca? On reparlera des noms après, mais pourquoi l'imagination devait-elle être au départ? Est-ce que vous aviez une sorte de sentiment d'omnipotence qui se révélait? Tout d'un coup, le romancier, il a tous les droits, y compris de créer une ville, dans un état qu'on connaît, un pays qu'on connaît, mais il a la possibilité d'inventer une ville.
Je me suis posé la question de partir d'un lieu réel et d'un pont réel. Et en même temps, du coup, j'étais complètement rivée au documentaire. C'est-à-dire que du coup, si j'étais sur des motifs réels, j'allais manipuler de la documentation, mais dans une perspective de véracité historique. Ça ne m'intéressait pas tellement, j'avais envie d'être assez débridée de ce point de vue-là, et au contraire de créer ma ville. D'ailleurs, dans le livre, il y a quand même une trentaine de feuillets au milieu du livre qui racontent la fondation de la ville sur une forme un peu de récit un peu parabolique, on va dire. Oui. Ils sont venus, et voilà comment ça s'est passé, les pionniers, etc. Ils ont fondé la ville. C'est aussi l'histoire de quand on écrit, bon, c'est un peu l'histoire, l'image un peu rebattue que quand on écrit, on invente du vrai. Mais c'est pour le coup, la ville de Coca, elle est complètement imaginaire, mais elle concentre des tas de marqueurs qui sont esthétiques, économiques, urbanistiques, etc., d'une ville d'Amérique du Nord. Mais pourtant assez...
Et en même temps, quand on le lit, c'est drôle parce que tout à l'heure...
On est en Amérique du Sud.
Vous posez la question après avoir lu le livre. J'aimerais savoir où ça se passe, alors que vous dites bien que c'est en Californie. Donc vous aviez aussi ce sentiment de vouloir aussi nous perdre. On a nos propres...
Oui, il y a un réseau. Il y a un réseau de... Plutôt, il y a un réseau de signifiants. C'est-à-dire que moi, j'ai situé le livre en Amérique à cause de... Parce que le livre, il est escorté par des mythologies américaines.
On parlait du western tout à l'heure, on est quand même dans une épopée.
Le mythe de la frontière, les romans de fondation, l'épopée humaine, la conquête de l'espace, la place de l'homme dans la nature, etc. Pour moi, ça, c'est des problèmes. Et la question de la réserve des Indiens. Pour moi, ça, c'est des mythologies ou des questions, des problématiques très américaines. Et puis, il y a le héros américain, et il y a l'aspect panoramique des films, des films plutôt... grand format, Hollywood, etc. C'est une espèce de souffle comme ça. Mais au fond, donc pour moi, c'était aux États-Unis et c'était plutôt en Californie parce que c'est ces décors-là au départ. Mais en même temps, très vite, Je me suis assez affranchie aussi pour les paysages. Franchement, j'ai composé moi-même un paysage qui était le plus proche de l'histoire que je voulais raconter. C'est-à-dire, moi, j'avais quand même besoin d'une forêt très dense où vivraient quand même des Indiens qui avaient été effectivement en contact avec la ville. C'est-à-dire, j'avais besoin d'un espace très clivé avec une forêt primitive, archaïque, avec des populations comme ça, indiennes, un peu contactées, mais qui vivent en retrait, et puis d'un autre côté une ville en plein boom architectural, économique, qui elle-même rejoue voilà ce qui peut se passer à Dubaï ou dans certaines villes d'Asie du Sud-Est, et comme ça j'avais l'espace qui me convenait. Alors il y a des causses, il y a des grandes plaines, sur le papier, moi je travaillais avec des cartes, avec des dessins, et d'ailleurs c'était un peu fou parce que j'avais des cartes de Californie, mais j'avais des photos d'Amazonie, et j'ai travaillé à partir... Pour les Indiens, tout est réglé à partir d'un livre d'un anthropologue qui s'appelle Daniel Everett, dont l'histoire m'a fascinée pendant que j'écrivais ce livre. Donc ça a coagulé un peu et ça fait trace dans cette histoire, qui est un type qui s'est intéressé à des Indiens qui vivent en Amazonie. Donc en fait, l'espace, cette espèce de micro-cité, de micro-monde de Coca, il est vraiment installé en Californie, mais finalement, il est pas, il est composite. Il est complètement composite.
Composite, donc totalement unique. Vous avez créé un territoire unique.
Oui, d'autant plus que, par exemple, pour faune et flore, il y a des choses qui sont très... comme j'étais là-bas, je me suis beaucoup documentée. Mais par moments, il y a quand même un tigre aux yeux de bronze, qui n'a rien à faire en Californie, il n'y en a pas. Donc il y a aussi la fantaisie, et il y a une part assez revendiquée de par moments, voilà, aussi assez ludique, de liberté, oui.
D'accord. Alors vous avez évoqué le mot western, je pense que ça revient un peu souvent. C'est vrai, on n'a pas le sentiment de lire en western, mais dans l'imaginaire. Mais il y a aussi un sentiment de mythologie, que vous pratiquez dans quelque chose de mythologique. Alors en même temps, les héros, on peut parler de héros plus que de protagonistes, mais est-ce qu'on peut parler d'archétypes en même temps ? Est-ce que j'ai pas le sentiment non plus que les héros soient archétypaux ? C'est-à-dire comme si vous avez voulu aussi leur insuffler quelque chose qui était une véritable subjectivité. Il y a une chose étonnante, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur ce qu'ils ont été avant de devenir les héros du livre. Pourquoi avoir choisi de leur donner ce passé, alors que précisément on n'allait vivre qu'un an de leur vie ? Quel était
C'est-à-dire qu'en fait, au moment, c'était l'idée de les traiter comme des héros, c'est-à-dire aussi avec une présence un peu fonctionnelle dans le livre. Hein. Il y a le conducteur des travaux qui est le héros, qui pourrait être Steve McQueen ou Gary Cooper, etc. Bon, le conducteur, et puis il y a deux personnages de femmes, et puis il y a quatre ou cinq autres personnages d'hommes qui sont prélevés dans une foule de gens qui travaillent sur ce chantier. Pour les rendre, j'allais dire, pour que pour que moi je puisse m'intéresser à eux, j'avais besoin, enfin j'ai eu envie surtout de pas les traiter que comme des archétypes et comme des fonctions, c'est-à-dire il a fallu j'avais envie de les humaniser, donc de raconter en fait tout ce qui les a menés, enfin pas tout ce qui les a menés, mais de donner des éléments de leur biographie, de leur passé, de montrer comment un jour ils déboulent là. Par exemple, notamment la question de la fille qui est responsable de la centrale à béton, j'avais envie de raconter pourquoi cette fille, cette jeune femme, elle se trouve à faire tourner une centrale à béton dans un chantier de cette taille. C'est pas un métier de femme.
C'est dans le poste clé, le béton, qui est...
Mais justement, pour pas qu'on soit trop dans l'archétype, c'est-à-dire que elle fait un métier d'homme, mais par ailleurs, il y a eu un accident dans sa biographie. Ses parents sont séparés, il y avait une fille et un garçon, sa mère est partie avec son frère, et son père lui a dit « je te récupère ». Donc, enfin, bon, elle a été un peu toujours cette espèce de fils que son père n'a pas eu, elle a joué au garçon, donc de fait, il y a une espèce de trouble dans le genre, pour reprendre l'expression de Judith Butler, elle aussi est un être clivé, féminin, masculin. C'est pour ça qu'elle n'est pas complètement archétypale, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, et c'est pour ça aussi qu'elle se raccorde très bien à cette histoire de pont. Elle est clivée, c'est un garçon manqué en fait. Et justement, l'intérêt pour moi, c'est de montrer comment le fait de travailler voilà, sur ce chantier peut amener à ce qu'elle se débride. De fait, à la fin, c'est elle qui sauve un peu toute cette histoire de chantier, c'est elle qui trouve la solution.
Alors effectivement, dans le livre, vous parlez de clivé, hein, c'est un mot que vous employez assez régulièrement. Ouais. Et il y a vraiment ce sentiment qu'on est dans un monde bipolaire, avec des affrontements en permanence entre les éléments, entre les personnages. Et on a un peu le sentiment qu'il y a deux éléments qui seraient quelque chose d'un peu ancien, Un monde ancien qui est en train de survivre et un monde moderne qui est en train de s'imposer face à ce monde ancien. Est-ce que ce n'est pas un des clivages majeurs du livre ? Ce côté des Indiens, un peu archaïque.
Mais c'est un clivage majeur du livre parce que c'est aussi un clivage majeur de nous. C'est-à-dire, je pense qu'on est, on évolue tous dans le monde contemporain. Voilà, on en... Et en même temps, on a en nous des pulsions, des pulsions archaïques, sauvages. Enfin, il y a une dimension pulsionnelle dans l'être humain qui, pour moi, est raccordée à une confrontation aux éléments, notamment à la nature. Donc, je trouve que c'est et en revanche, et donc des éléments très concrets, très matériels. Et puis en revanche, on est également confronté au virtuel, à tous ces affaires de flux qui sont tous les flux qui habitent le monde contemporain. Mais de fait, je me pose souvent la question. Je me dis souvent, c'est quoi être contemporain quand on est un auteur? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc d'être moderne, d'être contemporain et tout? Et je lisais un livre cet été qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Survivance des Lucioles », un livre de Georges Didier Huberman, et il donne cette clé, il dit le contemporain et l'archaïque ont toujours un rendez-vous secret, c'est-à-dire qu'en fait, notre présent, il est fait de temporalité complètement entremêlée, mais il y a également de l'archaïque dans le présent. Enfin, être contemporain, c'est pas platement écrire aujourd'hui avec, je sais pas, les noms de marques de fringues et les...
Oui, oui.
Il y a quand même... On est des êtres avec, voilà, des temps... On est un espèce de millefeuille mnésique avec des temporalités très différentes qui se croisent, etc. Il y a donc en nous, je pense... Ça me plaisait de représenter ça, de donner une représentation.
Montrer,
ça. C'est-à-dire qu'il y a cette forêt, tout ça, c'est un peu une métaphore. Il y a cette forêt où avec cette nature assez luxuriante, très belle, assez inquiétante, assez mystérieuse, où vivent des hommes qui sont très heureux dans une forme de douceur et qui sont un peu chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, etc. C'est-à-dire qu'on a une appréhension de la vie complètement... matériel, travail avec les éléments, on vit avec le jour et la nuit, enfin la temporalité de la journée, le quotidien est réglé sur les astres, etc. Et puis il y a évidemment ce monde dans lequel on est, qui est un monde où on est complètement déconnecté de la matière de plus en plus. Et des villes comme, par exemple, Dubaï, il incarne assez bien, parce que c'est des villes... Il n'y a rien à Dubaï, il n'y a pas de richesse ni rien. Il y a du vent, il y a du sable, et il y a des flux financiers. Donc c'est rien du tout. Et pourtant, il y a des tours qui s'élèvent. Enfin, c'est des mondes comme ça qui se confrontent, et c'est quand même l'état de la planète aussi, d'une certaine manière. Donc je trouvais que cette ville de Coca, elle était bien une espèce de planète en réduction, de fait, de ce côté-là.
Avec un maire, notamment, qui est le personnage qui, lui, qui est le seul à avoir finalement un prénom très banal, un nom et un prénom très banal, on en reparlera des noms. Finalement, tous vos personnages, on a du mal à les détester, même les pires.
Même
mais
lui,
celui-là,
qui
est un petit peu, il est pas un très ambigu.
Il n'est pas très sympathique, mais
démurge,
il est ambigu.
Un peu paranoïaque et un peu mégalomane, enfin, comme tous les démurges, j'imagine. Mais qu'est-ce que... Lui, il a une présence à part dans ce...
Parce que lui, il est vraiment l'incarnation de l'époque. C'est-à-dire, lui, c'est un type qui a grandi dans cette ville qui est quand même un bled, hein, qui est quand même pas grand-chose, une espèce d'une petite ville de province, etc. Il a une grande ambition qui est un peu petite pour lui, un peu petite pour sa ville, mais c'est quand même une grande ambition, c'est de construire un pont immense dans cette ville pour la faire rayonner et surtout pour la faire entrer dans un espèce de troisième âge de la globalité, d'une espèce de troisième millénaire de l'économie.
Mais
quoi.
Lui, on a le sentiment qu'à la différence des autres personnages qui se construisent en construisant le pont, a le sentiment que le pont ne le fait pas changer, finalement. J'ai l'impression que... Alors, vous allez me dire si vous avez le sentiment que les personnages se construisent en même temps.
Mais lui, il le commande. Et en fait, après, de fait... Là où il m'intéresse, c'est que c'est un personnage qui tourne le dos à l'Europe. C'est-à-dire, au moment où lui prend le pouvoir dans cette ville, ce qu'il veut, c'est... Il y a l'idée de tourner le dos à l'Europe et le tourner vraiment de toujours... c'est une espèce de course à l'échalote, de course en avant. Et du coup, c'est lui qui, en parlant du vieux pont qui existe, dit « on va le mettre à la casse, on va le mettre au rebut, j'en ai marre du lent, du poussif, etc. » C'est-à-dire que lui, il est pour une espèce de conversion au mouvement, à la rapidité. Il faut que comme si Coca devait épouser vraiment la pulsation du monde. Dans ce sens-là, il n'est pas complètement antipathique non plus, c'est-à-dire qu'il a un côté, on va se couler dans le flux du monde et on va se mettre un peu au diapason. Là où il est très antipathique, c'est que pour ça, pour réaliser cette ambition, finalement, il est prêt à tuer. Enfin, c'est un type qui, voilà, il est prêt à la destruction. Alors, il est un peu dans ce dilemme que si effectivement ils font ce pont, bon, bah, les Indiens... Les Indiens vont disparaître, quoi. Donc il y a une langue, des... Et en même temps, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, j'ai rencontré un type qui bossait à la FAO. C'était un type qui prenait sa retraite et qui me racontait qu'il avait tout le temps été toute sa vie face à des situations comme ça, quoi. On construit un barrage qui va permettre à 2000 personnes réparties dans 5-6 villages de survivre, et en même temps, bah, y a 400 Indiens dont la langue est la seule, enfin voilà, qui, avec une langue à part, avec des rites, avec voilà, il y a toute une culture qui va mourir. En fait, donc c'est toujours, c'est quoi le progrès, c'est quoi. Et tout ça, c'est quand même des questions assez obsédantes, quoi. C'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire ? Et moi, je le trouve assez intéressant parce que lui, il a pris une option. C'est-à-dire, il est dans une espèce de prise de risque, alors que son alter ego, enfin, l'homme qui vit dans la forêt et est le porte-parole des Indiens, Jacob, il est plutôt sur la permanence, le refus de l'histoire, le refus du temps. Lui, il est dans une espèce de fixation.
Mais alors, dans les westerns, dans tout l'imaginaire américain, il y a malgré tout une constante qui est il y a les bons et il y a les méchants. Ça construit là-dessus, on nous demande d'avoir de l'empathie pour les uns et du rejet des autres. On n'a pas ce sentiment-là ici, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les personnages vont être traversés par des...
C'est vrai.
Par des moments, mais que vous refusez finalement ce manichéisme.
Oui, c'est-à-dire qu'on est, alors en même temps, je pense que le personnage du boa, il est quand même c'est un des moins sympathiques du livre, non ?
Oui, c'est sûr. Oui. Il s'appelle le boa. Donc
je suis pas sûr.
C'est pas un constructeur, moi, c'est un constructeur, mais.
Et puis je trouve aussi que, il y a des forces qui sont très réactionnaires dans le livre par rapport à l'histoire du pont, c'est-à-dire qu'ils sont en réaction. Qui sont voilà ceux qui commanditent le sabotage, etc., qui sont pas traités de façon, pour le coup c'est assez cinématographique, c'est vraiment les méchants, ils sont sapés comme des méchants et tout, mais sinon non, les héros, ils sont tous assez complexes et ils ont tous à composer intimement avec le monde, avec leur propre violence et avec leur besoin aussi de coller au monde tel qu'il va et l'injonction à, en contraire, toujours être dans une espèce de rejet de ce monde-là. Il y a un personnage comme ça qui est la femme... Il y a une femme qui se fait embaucher sur le chantier. Elle vient là parce que son mari est handicapé. Il a eu un accident de travail. Il faut qu'elle trouve du boulot. Elle est représentante un peu de la classe white trash américaine. C'est vraiment les petits blancs pauvres qui vivent dans des espèces de c'est pas vraiment des bidonvilles, mais dans des
mobilhomes
ou alors évidemment ils font pousser des fleurs autour, mais vraiment c'est des mobilhomes qui sont plus mobiles justement. Et elle est j'aime bien ce personnage parce qu'elle a ce côté, donc elle va se faire embaucher sur le chantier, elle devient conductrice d'engin, mais en même temps elle a cette violence en elle qui la pousse par exemple à se battre vraiment pour elle, pour sa vie, et donc ça lui demande quand même de requérir beaucoup de force, et en même temps elle assume tout, elle prend tout, elle ne fait pas complètement le tri dans sa vie, quoi. Elle a cette histoire avec Diderot, elle a son mari, elle a ses enfants, elle a son travail, elle compose avec tous les éléments, toutes ces situations qui sont un peu son quotidien. Et en ce sens-là, pour moi, c'est l'héroïne, par exemple, du livre. Une grande héroïne du livre.
Et alors, précisément, vous parlez d'un des personnages. Chaque personnage arrive avec son histoire. Alors, le livre, donc, nous raconte beaucoup d'histoires. Est-ce que c'était pas pour vous une sorte de danger de multiplier les histoires qui s'inscrivent dans une histoire ? Est-ce que ça vous a pas, à un moment, obligé de vous dire « celui-là, je peux pas en raconter plus ». Je veux dire, comme si tout d'un coup, vous pouviez faire le gros roman américain de 800 pages et que vous vous êtes retenu en disant... Quel moment où je suis un peu dans la retenue parce que ce personnage-là, je pourrais tellement en parler que je ferais un livre.
En fait, tous les personnages, par exemple, notamment Catherine, là, dont je viens de parler, elle, à un moment donné, j'ai été tentée vraiment de la neutraliser pour en faire l'héroïne d'un livre suivant, tellement je me suis un peu passionnée pour cette femme. Enfin, pour son héroïsme, en fait. Un héroïsme du quotidien, très trivial, presque. Mais le fait est que je voulais pas faire une saga, au sens où, pour moi, c'est pas un livre où les personnages sont traités pour eux-mêmes. C'est pas un livre où les personnages sont devant. C'est le pont qui est devant, c'est le pont qui est le moteur du livre, c'est le pont qui draine ces vies, qui a convoqué ces gens-là, qui a induit que tout le monde converge sur cette ville. Le début du livre raconte une forme d'exode. Tout le monde vient et tout le monde va œuvrer ensemble. Le pont, il conduit tout. Donc les personnages, ils sont vraiment là. Ils sont rivés d'abord à un travail. Ils n'existent que parce qu'ils ont un poste sur le chantier. Le reste des habitants de la ville, ils ne sont pas évoqués. On est vraiment sur le chantier. À part le boa, c'est le seul personnage extérieur au chantier qui fait l'objet d'un traitement dans le livre.
Et puis l'ethnologue aussi. Enfin,
et l'ethnologue,
qui,
oui.
Qui lui, d'ailleurs, disparaît un peu longtemps dans le livre.
L'ethnologue, il est lié au chantier, de fait, puisqu'il est contre le chantier. Mais sinon, il n'y a pas de personnage qui ne soit pas impliqué dans cette histoire de chantier d'une manière ou d'une autre. Donc les personnages, ils sont là parce qu'ils sont rivés à un poste, ils sont rivés à un travail, ils ont une fonction, voilà, ils ont une fonction à opérer dans ce chantier. En revanche, je voulais qu'ils soient, c'était un peu contradictoire, parce que moi j'étais un peu dans un dilemme, je voulais qu'ils soient très humains, qu'on soit pas dans des archétypes, donc il fallait quand même que ils puissent exister, mais exister comme des vrais personnages de roman avec avec quand même des manifestations psychologiques, parce que moi je fais pas de psychologie avec les personnages, mais c'est des êtres avec des corps et avec des psychologies, avec des sensibilités qui se baladent. Donc ça pour moi c'était important. Et puis en même temps, je voulais pas faire de saga, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il soit plus du tout question du pont, mais il soit question des histoires d'amour entre Bidule et Truc, que Machin déteste, et que, comme ça fait dans l'espèce de grands romans familiaux où deux familles s'affrontent sur des générations, je sais pas quoi. Mais ça, je voulais pas de ça.
Et en même temps, sans tomber non plus, il y avait aussi un risque qui était, alors vous le dites, je sais pas, vous l'avez dit quelque part, dans le clip Manpower, enfin, c'est-à-dire le clip Bouygues Immobilier, c'est-à-dire Immobilier du style, on magnifie des hommes qui, la main dans la main, vont tous se bâtir un bel objet, etc.
Un peu relooké Malboro.
Et comment on fait pour empêcher cette tentation, enfin ce risque d'être pris dans quelque chose qui tout d'un coup va être, ou alors la surhéroïsation, ou alors on va trouver quelque chose de sublime à cette construction, alors que somme toute ça reste des êtres humains compliqués. Est-ce que vous n'avez pas trouvé une...
Mais ça je trouve que c'est plus, ça m'a pas inquiété, c'était moins un dilemme que par exemple pour le traitement des personnages, où là pour le coup par moment j'étais, par exemple il y a un chinois qui est là qui vient de Datong, hein, qui est une ville au nord de Pékin, qui est une grande métropole charbonnière, enfin de production du charbon en Chine, et lui il fait tout ce voyage. À un moment donné, j'étais un peu exténuée avec lui, parce que je voyais bien que de toute façon, le personnage que j'en avais fait, c'était plus une présence ou une vitesse dans le chantier, mais j'avais pas grand-chose à en dire de plus. Lui-même, il était ce personnage qui a toujours peur d'être vu, toujours peur d'être attrapé, toujours peur d'être rattrapé. Donc c'est un personnage dont la discrétion, de fait, imposait une présence plus discrète.
Il y a une scène de grève, notamment. Alors, qu'il n'y avait pas... tout d'un coup, on se dit, tiens, voilà du social qui apparaît dans le roman, parce que on a droit à tout. On a le sentiment que vous avez trouvé une solution pour éviter de tomber du style, on va défendre les travailleurs, et en même temps, on va faire pâquer les patrons pour des salauds.
Mais ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de... Je veux juste terminer avec ce qu'on disait avant. Ça va être dans la continuité. C'est-à-dire que, moi, le côté... la grande geste héroïque des hommes qui bâtissent main dans la main, etc., l'épopée soviétique, etc., c'était pas trop mon truc. Ce qui m'a aidée, alors même si ça m'inquiétait pas, la façon dont j'ai travaillé, c'est d'être rivée complètement au chantier. Donc, moi, c'est pas un livre que j'ai écrit, j'allais dire, par le haut, avec de l'idéologie ou une envie de faire passer des messages, de glorifier tel ou tel aspect de la geste humaine, etc. J'étais tout le temps par le bas, c'est-à-dire, en gros, c'était intégrer tout le temps au texte la compréhension de ce que peut être un aléa, un événement. Donc, de fait, je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe sur un chantier ? La seule chose que je me suis dit au début, c'est que moi, je voulais que le pont il soit construit à la fin. C'est-à-dire, je ne voulais pas qu'on soit dans un effondrement, un abandon. Il fallait qu'à la fin du livre, le pont soit debout. C'était la seule chose que je m'étais fixée. Mais après, évidemment, il fallait qu'il y ait des aléas. Mais évidemment que la grève, si ça bloque, le livre, il avance plus. Et dans le réel, ça n'avance pas. Enfin, dans la réalité de mon travail d'auteur, ça n'avance plus. Et en plus, moi, je ne faisais pas un livre sur un conflit social. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de raconter une grève, mais alors je raconte vraiment la grève, mais je ne raconte plus l'histoire du pont. Je raconte une grève qui n'avance pas, une grève qui se négocie. Là, ils sont obligés de réagir très très vite parce que le fait de la grève, les sommes financières en jeu sont tellement importantes que c'est comme quand la SNCF ils arrêtent de faire rouler les trains. Quoi, il faut vite trouver un compromis. Donc ça m'intéressait. C'est vraiment l'aléa, c'est vraiment l'événement. Tout d'un coup, il y a des hommes qui se réveillent et qui disent « Mais attendez, ça fonctionne pas de travailler comme ça, nous, on s'y retrouve pas. » Et en plus, pour le coup, d'un point de vue plus politique, je trouvais que c'était pas du tout juste de faire venir... En fait, moi, je fais un livre, c'est un collectif, les gens qui... J'écris un livre où je mets en scène un collectif. C'est ça qui m'a intéressée, c'est qu'il y ait quand même du monde et qu'il y ait quand même du travail. Donc, il y a forcément la lutte des classes, pas au sens complètement marxiste du terme, mais il y a de la lutte, il y a du débordement, c'est un collectif instable. Ça aurait été, de mon point de vue, fautif de pas faire trace du fait que ça se passe pas du tout bien, qu'il y en a qui ont des contrats locaux et d'autres qui ont des contrats d'expatriés, qu'il y a une espèce de hiérarchie sur le chantier qui fait qu'il y en a qui ont un travail plus dur que d'autres, et que surtout, bah là, en l'occurrence, c'est une histoire vraie. Ce que je raconte dans le livre, c'est que sur le pont du Golden Gate Bridge, à un moment donné, la construction était assez avancée, et les ouvriers, pour rejoindre leur poste de travail dans les caissons, dans les tours, mettaient parfois 40 à 50 minutes le temps de monter. Or, ils étaient payés à la pièce. Donc, à un moment, ils ont dit, c'est pas du tout possible. Sur notre journée de travail, finalement, il y a 2 heures où on n'est pas payé, quoi. Et donc, ils l'ont demandé. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce qu'en plus, ça crée de la tension. C'est un collectif instable, il y a de la tension, il y a de la politique. Et puis, par exemple, il y a de la nature. Il y a effectivement la grève, il y a les oiseaux aussi qui vont arrêter le chantier. Il y a des tentatives de sabotage, il y a des tas de forces comme ça qui s'opposent au pont. Mais ça, pour moi, c'est un aléa, c'est un événement. Ça veut dire que les choses sont pas... Il y a de l'indécidable et il y a de l'immaîtrisé.
Enfin, vous inventiez au fur et à mesure toutes les raisons qui auraient fait arrêter votre roman.
Oui, c'est ça.
Pour vous forcer à le continuer.
Oui, c'est ça, exactement. Parce que pour le coup, moi aussi, j'ai connu... Enfin, je veux dire, il y a eu des aléas.
Dans la création, parce que ça a mis 4 ans. Est-ce qu'il y a des moments où le pont lui-même, le chantier, s'est arrêté?
Bien
et
sûr.
Tout d'un coup, je vous ai dit, où est-ce que je vais? Parce qu'il y a des choses étonnantes dans le livre, c'est ça qui est étonnant quand on raconte le livre à des gens pour qu'ils le prennent, c'est leur dire que malgré tout, aucun aspect n'est négligé. Vous pouvez parler d'argent, vous parlez de choses terriblement triviales et nécessaires comme le béton, etc. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui vous arrêtait ou au contraire, c'était une sorte de défi supplémentaire?
Non, ça, c'était stimulant. Voilà. Par exemple, tout l'aspect technique du chantier... ça a été stimulant parce que je trouve que ce qu'il y a de formidable, alors là pour le coup, est d'assez enthousiasmant quand on se lance dans un livre, quand on se choisit un sujet. Pour le coup, quand on écrit, personne vous force à écrire un livre sur les ponts. Enfin, je veux dire vraiment. Donc, si moi je me dis je vais faire un livre sur un pont, ça implique quand même que la moindre des choses, ça soit de s'intéresser au pont et donc à la technique. Enfin, je veux dire, et pour le coup, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on apprend plein de choses. L'anecdote des oiseaux, enfin, l'histoire des oiseaux, c'est une vraie histoire durant la construction du pont Vasco de Gama, qui fait un virage de 18 km dans l'embouchure du Tage. Il y a eu un chantier, mais alors là, pour le coup, européen, colossale qui a coûté 6 milliards d'euros. Il y a eu à un moment donné des oiseaux qui étaient protégés par la convention, une convention européenne, qui sont venus nicher là, dans les eaux du Tage, et le chantier s'est arrêté. Mais les... Moi, j'ai discuté avec un des ingénieurs que j'avais. Ils sont devenus dingues parce que, pour le coup, on ne pouvait pas débaucher les hommes, etc. Et bon, il y a eu trois semaines d'arrêt, ou un peu plus. Et bon, ça, c'est aussi comment trois petites plumes de 15 grammes, ça peut freiner, interrompre. Un chantier colossal. Alors, évidemment, la métaphore, le chantier, il est aussi métaphorique d'une certaine manière de l'écriture. C'est-à-dire que commencer un livre, c'est vrai que c'est ouvrir un chantier. Et après, il faut mener les choses à terme, arriver à ce que ce soit construit à la fin, que ça tienne, que ça s'incarne dans un objet. Donc, c'est quand même quelque chose de très concret. Et puis, il y a quand même eu, pour ce livre-là, des tas d'aléas dont le livre fait trace d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a eu des moments où moi, je me suis arrêtée de l'écrire aussi pour. Je me suis lancée très vite et puis à un moment, c'était un peu gros pour moi. Et en fait, j'ai dû passer par la rédaction de deux autres livres dans Les Rapides et Corniche Kennedy, donc deux romans en 2007 et en 2008, où j'ai fait des réglages, je pense, des réglages en termes d'écriture, où j'ai travaillé. Enfin, je pense que même techniquement, pour le coup, ça a été important pour moi. Et après, je me suis remise sur ce livre-là. Et je l'ai écrit d'un trait, avec voilà, ces des voyages et tout le travail de la documentation que je commençais à savoir, enfin pas forcément à savoir, mais à pouvoir intégrer dans mon texte. Quoi. Alors, c'est un peu l'aspect nouveau pour moi, c'est un peu la manipulation de la documentation. Et aussi, par exemple, on parlait de la technique... Le vocabulaire technique, il a une poétique, et je trouvais ça, par exemple, important de ne pas contourner le lexique technique, c'est-à-dire qu'il soit présent dans le livre, enchâssé dans des phrases littéraires, qu'à un moment donné, on parle réellement des mots issus du lexique architectural ou des travaux publics. Et ça tisse comme ça toute une poétique, je pense, lié au travail dans le livre. Enfin, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que le roman, je pense qu'en plus, d'un point de vue plus littéraire, le roman, il peut faire son miel de tout. Tout est soluble dans le roman. La langue, elle peut incorporer des tas de registres différents. Et là, pour le coup, ce livre, il est aussi composite que la ville. C'est-à-dire qu'il y a, j'espère, des moments de description assez poétiques. Il y a une façon d'assumer le lyrisme. Par exemple, c'est un livre avec des moments de lyrisme vachement importants. Je trouve que moi, j'ai une écriture assez lyrique, pour le coup. C'était une façon de débrider ce lyrisme et de le garder, mais en même temps qu'il puisse y avoir enchâssé dans la phrase un mot rare, un mot
précieux. Parfois.
Ouais, parfois, c'est presque maniériste sur certains segments. C'est-à-dire que ça fait un grain, un mot un peu inconnu qui est du mystère. Il y a des enjeux de description, il y a de la trivialité, il y a de la grossièreté, hein, il y a de l'insulte. Il y a un peu de langues étrangères, très peu. Il y a des onomatopées. Il y a des onomatopées pas mal parce que ça fait un peu bruiter la phrase. Tout fait grain, c'est-à-dire que le roman. Et ça, pour moi, le livre, il est aussi composite que la ville elle-même, hein, enfin que le chantier lui-même.
Et on a le sentiment, alors, pour reprendre les choses de Flaubert, que vraiment c'était un livre à passer au gueuloir, c'est-à-dire que on pouvait l'entendre. Enfin, moi, c'est ce que j'aime dans ce que vous écrivez depuis longtemps. Ouais. C'est le sentiment que ça passe par l'oreille et que vous avez une vraie allégresse
à lire,
utiliser les mots pour qu'on les entende et qu'ils se mettent à résonner, et que là, avec un chantier, vous avez tout d'un coup. Plus seulement un matériau, mais plein de matériaux à vos dispositions que vous alliez pouvoir mélanger.
C'était beaucoup plus riche. C'était beaucoup plus riche. Mais de toute façon, moi, tout est réglé à l'oral. C'est-à-dire depuis Ni fleur ni couronne, à la fin de chaque séquence, pour fixer le texte, je me le lis à voix haute. C'est des séances assez longues, mais c'est pour régler tout ce qui est la ponctuation, c'est-à-dire tout ce qui fait respirer, les vitesses, les intensités, les moments de l'argot, les grands l'argot, le moment de ralenti intérieur, etc., les moments où ça réaccélère. Enfin, sur la ponctuation, c'est un travail, pour moi, qui est presque le plus difficile. Et donc ça, je peux le faire qu'à l'oral. Et effectivement, toute cette façon de créer des phrases un peu composites, je le fais à l'oral. Donc, Ça, c'est une technique d'écriture, enfin, c'est presque une
façon de procéder. Mais c'est ce qui compte, on parle de lyrisme, il y a un côté chant, enfin, il y a quelque sorte de chant, et là, vous avez choisi, somme toute, ce qui est le plus trivial, qui est le chant de l'ouvrier.
Le chant du chantier.
Pas d'un chantier, il y a chant, c'est idiot, mais... Alors, on va juste évoquer aussi une chose qui est assez déroutante. Honnêtement, dans votre livre, moi, c'est la chose qui m'a dérouté, c'est les patronymes. Les noms, puisqu'on a le sentiment... qu'il y a quelque chose de l'ordre du jeu, pour vous, ou du rappel, ou du clin d'œil, ou quelque chose comme ça. Et moi, qui m'a handicap un peu, moi. Parce que quand j'ai un personnage qui s'appelle Diderot, et que c'est tout le livre, surtout qu'il s'appelle Georges...
Denis.
Voilà. Il faut le porter avec soi. Ouais. Et puis, l'air de rien, il y a Ralph Waldo, alors on ne met pas Emerson, mais il n'est pas loin.
Il y a Catherine Soro.
Voilà, donc... D'où ça vient ? Est-ce qu'on a le sentiment que...
Mais ça, c'est
que...
pas le premier livre, hein, parce oui. qu'il y avait Silvestro, il y avait quand même...
Mais il y a quelque chose comme ça, qu'est-ce que c'est que cette façon de dissimuler ces personnages derrière des noms auxquels on croit un peu moins, somme toute, parce que là, on sait directement qu'il y a une référence ou pas. Alors, Soro, évidemment, Emerson, les philosophes de la nature, etc. Le marqueur est très impressionnant. Est-ce que là-dedans, vous nous ramenez en nous disant... Je vous rappelle que c'est de la littérature, donc je marque en disant que finalement, c'est pas sérieux, ce sont des personnages. Qu'est-ce que vous dissimulez derrière ça ?
Bon, les noms, bon, moi je fais un travail sur les noms depuis toujours en fait. Hein. C'est pas le premier livre où je fais ça alors. Et c'est vrai que c'est des noms assez excessifs. Il y a un côté excessif.
Pourrais des surnoms presque, je veux dire.
Oui, ouais, c'est des noms excessifs. C'est presque comme on dit un nom de roman. Voilà, c'est un peu voilà. Pour autant, c'est que des noms qui existent. C'est-à-dire que moi, je ne bricole pas un nom. C'est des noms qui existent et que moi, je prénom-nom, je pioche et je remets.
Mais Diamantis, c'est un prénom qui existe parce qu'on a le sentiment que...
Diamantis, c'est un...
Pour une bétonneuse, Diamantis...
Génial. Moi, je trouvais ça bien. Parce qu'en plus... Non, mais Diamantis, d'ailleurs, Summer Diamantis, on voit bien que tout de suite, ça fait soleil. C'est vraiment un nom très solaire, très brillant. Le livre, les premières pages du livre... Non, parce qu'en fait, tout ce qui se joue avec les noms, alors ça peut être lourdement symbolique. Je vois bien qu'il y a un côté un peu appuyé de ça. C'est une part de jeu, d'abord. Hein. Il y a quand même un enjeu qui est ludique, qui est de tisser un réseau de signifiants, une espèce de poétique comme ça, des noms propres, qui, moi, me fait plaisir. Et j'aime bien trouver des noms qui sont idoines, avec des fonctions ou des physiques. Je trouve ça intéressant.
Dès le début, ces noms-là
ouais, moi, je pars presque parfois des noms. C'est même... que, par exemple, Summer Diamantis, avant même d'être celle qui elle est, elle apparaît comme Summer Diamantis, et après, elle devient cette fille, clivée, garçon-fille, et qui s'occupe des bétons. Ça me tire. Alors, c'est vrai que il y a un système de référence personnelle qui est un peu crypté, et puis il y a quelque chose qui est complètement donné au lecteur, avec lequel il peut jouer aussi. Le héros du livre, celui qui couve un peu le livre, enfin le livre s'ouvre par le portrait un peu en pied du conducteur du chantier qui s'appelle Georges Diderot, qui est celui qui va ouvrir le chantier. Comme il ouvre le chantier, il apparaît au début et on fait un peu, c'est un peu son portrait, et ça, comme si son ombre portée allait courir jusqu'à la dernière page du livre. Il s'appelle Diderot parce que, il y a un côté euphonique qui me plaît bien, mais on s'en doute que c'est pas que ça. Hein, c'est pas le nom qui sonne le mieux, Diderot, mais c'est vrai que c'est un nom un peu dynamique. C'est un philosophe que moi j'aime beaucoup. C'est les Lumières, c'est l'encyclopédie, donc ça collait bien à ce personnage un peu d'ingénieur, très faune, flore, climat, sol, fleuve,
encyclopédiste,
etc. Un peu encyclopédiste. Et puis c'est un grand philosophe matérialiste, mais alors très comme ça, très dans la connaissance. Et en même temps, Diderot pour moi c'est un philosophe surtout très très spirituel, enfin dans un esprit très brillant et très ludique. C'est le philosophe du jeu et notamment du jeu avec la littérature quand il écrit. Jacques le Fataliste, on voit, il déboule avec ce livre, il casse tous les codes de narrateur, auteur, auteur, narrateur, héros, etc. C'est-à-dire qu'il fait intervenir le lecteur. Il y a dans ce qu'il a écrit et que j'aime, il y a vraiment des livres qui m'ont marqué. Il y a quelque chose de très ludique, de très audacieux, de très brillant et de pas du tout triste. Et il y a un livre qui s'appelle Diderot ou le matérialisme enchanté, qui est un livre de philo d'Elisabeth de Fontenay. Et pour moi, c'est ça, c'est le matérialisme enchanté, c'est un peu ça le thème du livre. C'est-à-dire qu'on est dans un livre très matière, pont, béton, acier, etc. Et en même temps, moi, j'ai essayé par la langue et par notamment tout le jeu sur l'espace et l'enjeu de la description et du lyrisme qu'il y a dans le livre, d'écrire un livre où la langue réenchante un peu les espaces, etc. Donc, en fait, ce titre, Diderot, le matérialisme enchanté, il m'a beaucoup habité. Et du coup, il s'est appelé comme ça. En face de lui, évidemment, Catherine Thoreau, c'est l'autre, le philosophe panthéiste américain de la nature, comme Emerson, etc. Alors ça, moi, ça me fait assez rire aussi quand je vois sur le imprimé Diderot et Soro vont prendre un café, ça me plaît bien, il y a un côté gag, ça me fait rigoler.
Un côté inculte.
Bon, après, j'espère que c'est pas trop ni prétentieux au sens je fais mon petit code et j'exclus le lecteur, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui sont un peu mastoc.
Non, ça ne fait pas cuistre, plus... en même temps, ça fait pas.
Non, l'idée, c'est pas d'être cuistre, ouais. Mais... Et en plus, j'aime bien le travail sur les noms propres, j'aime bien ça. Je trouve que parfois, juste le nom... ça démarre. Et moi, encore une fois, c'est des noms souvent que je prélève dans la réalité. Roger Diamantis, déjà, c'est la Grèce, c'est le diamant. Le début du livre, les trois premières lignes de Naissance d'un pont, ça se passe dans une mine de diamants. Je trouvais ça super que la fille, elle s'appelle Diamantis, d'autant plus qu'elle est un peu béton. Et que, voilà, enfin, bon, ça me permet, moi, de créer des micros, de faire une espèce de. Voilà, de micro-signifiant,
des échos,
de créer de tisser comme ça un petit réseau de signification entre les noms.
Alors vous parliez tout à l'heure, j'ai bien noté, des références personnelles un peu cryptées. Et alors, dans la bande d'Inculte, vous êtes vraiment quand même la personne qui masque le plus son autobiographie, enfin, ou qui, en tout cas, on avait le sentiment au début que c'était peut-être un peu, il y avait peut-être un peu ça, enfin, dans Je marche sous un ciel de traîne, c'était peut-être autobiographique, mais peut-être pas tant que ça. Là, ici, on s'en éloigne carrément.
Ouais.
Est-ce que... quel est votre rapport à l'autofiction? Est-ce que c'est pas une façon aussi de le tenir tellement éloigné, d'ériger un pont entre vous et votre histoire? Ou alors, il faut vous chercher
voilà,
parmi les diamants
Non. Non, ça, c'est une super question, parce que dans Je marche sous un ciel de traîne, il y a des motifs autobiographiques... La Dordogne, Ribérac, quelques épisodes familiaux qui sont tressés dans un roman qui en est assez éloigné. Et puis après, c'était terminé. Après, enfin, la vie voyageuse, il y a Le Havre. Enfin, c'est ce qui me rapporte à de l'autobiographie. Ce qui fait trace, ce qui peut être un marqueur d'autobiographie, c'est quand même les lieux. Donc Le Havre pour La vie voyageuse et Dans les rapides. Et puis après, c'est même plus Le Havre, c'est le littoral. Le fait que j'ai passé 18 ans au Havre, je suis née à Toulon. Je veux dire, la mer est un espace extrêmement important chez moi, y compris symboliquement, parce que je suis d'une famille où les hommes étaient marins au long cours. Enfin, et donc, ils sont quand même... voilà, mon père et mon grand-père naviguaient à la Transat. Ils partaient, bon, il y a quand même un peu un truc avec la mer. Après, ça... ça m'intéresse pas d'en faire trace. L'autofiction, j'ai rien. D'un point de vue politique, j'ai pas de détestation de l'autofiction. L'autofiction, c'est pas, ça ne m'intéresse pas moi dans la mesure où je ne suis pas le sujet de mes romans. Je ne suis pas le sujet de ce sur quoi j'écris. Ça m'intéresse pas d'être d'être mon propre sujet. Je dis pas que c'est pas intéressant. Il y a des grands textes d'autofiction et j'ai pas d'aversion pour ce genre. Moi, je suis à une phase là où ce que je préfère, c'est être colonisée moi par un sujet. C'est-à-dire quand je me suis intéressée à cette histoire de pont, finalement, j'ai écrit un texte comme ça. C'est parce qu'on a écrit avec les Incultes, on a écrit un texte. Alors là, on essayait un peu de réfléchir à des positions peut-être plus théoriques sur la littérature dans devenir du roman. Moi, j'ai écrit un texte qui s'appelait « Le papier tue mouche, la centrifugeuse et l'écumoire ». C'est-à-dire, c'était, en fait, je m'interrogeais sur les pratiques d'écriture. Je me dis, c'est quoi, comment ça se passe quand on écrit un livre, etc. Moi, je vois bien que ce que j'aime, c'est au moment où je suis accrochée par une idée qui peut être un motif, alors le motif du plongeon qui est un motif assez pictural, ou voilà cette histoire de compromis qui est une idée un peu intello, mais évidemment, ça ne m'intéresse pas de gloser sur le compromis, il faut que ça s'incarne dans une forme d'architecture, ou alors un épisode, quelque chose de très empirique, l'ascension d'un volcan, etc. Je vois bien que quand il y a quelque chose qui m'accroche, finalement, au bout d'un moment, ça fait un peu papier tu mouches, et c'est comme si j'avais un espèce de ruban dans mon cerveau, et tout ce qui peut s'y rapporter de près ou de loin me colonise. C'est-à-dire que quand j'écrivais ce pont, tout s'y rapportait. Mais même des histoires qui n'avaient rien à voir avec le pont, j'arrivais à trouver un moyen de les... Évidemment, tout ça, c'est à la fois pour bourrer les livres et les éloigner de ma propre autobiographie. C'est une façon de me planquer, de me cacher. Plus il y a d'intrigues, plus il y a de matière, plus il y a de gens, moins je suis présente. Et pour autant, moi, là, je pense que j'ai jamais été aussi présente que dans ce livre-là, dans tous les personnages, mais y compris dans toutes les langues. Et j'ai l'impression que je suis aussi bien Summer que Catherine, que Diderot. J'ai une espèce de dilatation de moi-même dans le livre qui est totale. Et qu'en fait, le pont, c'est comme si c'était moi. C'est-à-dire, en fait, je renverse le truc. C'est pas de l'autofiction, c'est la fiction qui s'empare de moi. Et pas, moi, je vois pas l'intérêt de raconter... Enfin, j'ai pas trouvé la langue, en tout cas, pour le faire. Je pense que les grands textes d'autofiction, ils tiennent debout parce qu'ils ont la langue pour le dire. Par exemple, même en Go, on peut dire ce qu'on veut, que c'est nul, que c'est bien, etc. En Go, elle a une langue. Elle a trouvé une langue pour dire qui elle était. Et
pourtant, vous avez trouvé une langue. Parce que moi, si caractérise, on tombe sur une page de vous, désormais, peut-être que ça se repérera.
Oui.
On l'entend.
Oui, oui.
Les gens à qui je le conseille, je dis, vous allez voir, il vous faudra une page pour comprendre dans quoi vous êtes tombé.
Oui,
peut-être que même, d'ailleurs, la première page est même un marqueur très fort. Il dit, attention, vous entrez dans un territoire un peu particulier.
Oui, mais... moi, j'ai trouvé une langue, mais je n'ai pas trouvé une langue autofictionnelle. J'ai trouvé une langue composite. Enfin, j'ai trouvé la... J'essaye à chaque fois de trouver la langue de mon sujet. Et en fait, évidemment, on se reconfigure à chaque livre. À chaque fois, l'intérêt, c'est cette sorte de fond et forme, c'est de trouver la langue qui incarne le mieux le fond, trouver la forme. Moi, je pense que j'ai une langue... En plus, la langue, c'est quand même la part de l'écrivain qui est la plus indécidable. Moi, j'ai beau dire le roman, c'est une somme de décisions, etc. C'est ça, un roman. Ce qu'il y a de plus indécidable dans un roman, c'est la langue. C'est ce qu'il y a de plus consubstantiel à l'auteur. Votre langue, c'est votre corps, c'est votre voix, c'est votre tête. Il n'y a pas de plus consubstantiel vraiment qu'une écriture, qu'une langue. Pour autant, moi, j'ai l'impression que depuis quelques livres, où je suis de plus en plus dans des sujets qui sont le plus possible, mais en tout cas très très éloignés de ma vie, de mon autobiographie et même, de mon quotidien. Moi, il n'y a pas plus éloigné de moi que cette histoire dans une ville imaginaire de gens qui sont tous là pour construire un pont, etc., et des Indiens, etc. Moi, c'est comme un autoportrait, finalement, ce livre. Vous voyez, mais ça passe par le fait que, moi, je ramasse tout ce qui m'intéresse est dans ce livre. Donc, c'est moi, ce livre, en fait. Tout ça, ça m'intéresse. Je peux pas le dire mieux. Je pourrais. Ça ne. C'est une autre forme presque d'autofiction, d'une certaine manière. Sauf que c'est pas moi, Maëlys de Kerangal, le sujet de mon livre. C'est ce sujet-là. C'est moi, d'une certaine manière.
C'est pas un hasard si vous avez appelé ça naissance, d'un point, parce que la naissance, c'est un être physique,
après bien sûr,
hein, c'est rarement
sûr.
Un objet.
Voilà. Bien sûr.
D'accord, parce
bien
que déjà sûr. Le titre lui-même est assez.
Le titre est un peu excès.
Il y a de l'excès, mais il est presque.
Il est
deux strates de vocabulaire différents.
Il est clivé. Il est clivé. Il y a la naissance qui est. Voilà, il a cette espèce de. Il est scindé en deux, quoi. Il est scindé en deux.
Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on écoute justement cette fameuse voix. Oui, voir si l'auteur va nous le gueuler. Correctement, page 60, on a choisi page 65.
Oui, ou alors, j'aurais pu lire le début.
Alors on n'a pas parlé non plus de vos titres de chapitres qui sont assez,
ouais,
assez beaux, enfin, une sorte d'infinitif qu'on poétise, hein. Marcher dans la nuit violette, organiser le tâtonnement, prendre la mesure des lieux, et puis hop, on perd cette...
On perd le côté infinitif, ouais.
Et puis on passe à quelque chose qui est plus...
Paysage,
un troisième paysage de l'autre côté de l'eau.
Oui, ça se finit tout doux.
Oui, ouais. C'était quoi le propos de ça? Parce que C'est pas anodin, ces titres, je pense.
Non.
Surtout même dans la façon dont ils sont organisés dans le corps du texte. C'est vous annoncez quelque chose.
Oui, c'est des séquences, en fait. C'est les séquences de la construction du pont. Donc, marcher dans la nuit violette, c'est l'exode, enfin, c'est la convergence. Organiser le tintonnement, c'était... En fait, c'est des moments aussi où moi, je vois bien que je me parle à moi, je pose des repères, des jalons. Donc, j'ai marché dans la nuit violette. Organiser le tâtonnement, c'est vraiment la façon dont moi, je m'y prends aussi, parce qu'il y a toute une part de tâtonnement dans l'écriture d'un livre qui est la part essentielle du travail de l'auteur, hein, je trouve. Hein. C'est franchement... il faut tout le temps décider, donc on est sans arrêt en train de faire des sondes, et puis on avance comme ça, un peu dans l'obscurité, un peu dans le doute, mais pour autant, on avance. Il y a l'idée que... moi, par exemple, je ne crois pas du tout à l'inspiration. Je ne suis pas du tout dans... C'est une mythologie, pour le coup, qui ne me parle pas du tout. Je suis beaucoup plus dans quelque chose qui a à voir avec le tâtonnement dans le travail d'écriture. L'inspiration, et hop, on écrit, etc. Ce n'est pas du tout moi. Ça me... je vois même... ça me concerne assez peu. En revanche, le tâtonnement me concerne énormément, y compris dans une espèce d'esthétique... voilà, du toucher qui est importante.
Non, on aurait dit une sorte de programme.
Enfin, c'est presque programmatique. Ouais.
Curieusement, le programme arrive au cours du livre. Alors, on va vous donner la parole.
Ouais, je vais vous lire le début donc de l'Exode. Hein. Ah oui, pardon. Marcher dans la nuit violette. Le 15 août 2007, le New York Times annonça dans ses pages business la construction d'un pont dans la ville de Coca, bref de trois lignes en bas de casse corps 12, qui glissa sans rien accrocher d'autre que des haussements de sourcils. On pensa « enfin, il y en a qui vont avoir du boulot » ou « ça y est, ils relancent par une politique de grands travaux, rien de plus ». Mais les boîtes d'ingénierie envasées dans la crise économique, elles, se mirent à tourner beaucoup, beaucoup plus vite. Leurs équipes s'activèrent à chercher des informations, à nouer des contrats au sein des compagnies qui avaient conclu les marchés, à y placer des taupes, le tout afin de se mettre sur les rangs en bonne place et de les pourvoir en hommes, en machines, en matières premières, en services de toutes sortes. Mais c'était trop tard. Les jeux étaient faits, les accords scellés. Cela résultait d'un processus d'élection lourd et délicat qui, bien qu'accéléré, comme s'il avait fait l'objet d'une procédure spéciale, mit tout de même 2 ans à s'incarner dans des paraphes officiels au bas de contrats de 150 pages au moins, un phasage qui ressemblait à une course de haies. Septembre 2005, lancement par la mairie de Coca d'un appel à candidature internationale. Février 2006, préqualification de 5 entreprises et dans la foulée définition de l'appel d'offres. Décembre 2006, remise des dossiers. Avril 2007, désignation des 2 sociétés finalistes pour l'ultime étape de sélection. Et Juin 2007, proclamation du nom du vainqueur. Le concours avait imposé un calendrier infernal et mis sous pression des centaines de personnes dans le monde entier. Il y eut de l'excitation et il y eut de la casse. Les ingénieurs marnaient 15 heures par jour et le reste du temps vivaient le BlackBerry ou l'iPhone vissé à l'oreille, fourré la nuit sous l'oreiller. Le son augmentait quand ils passaient sous la douche, quand ils se défonçaient au squash ou au tennis. Le vibreur à fond quand ils allaient au cinéma et très peu y allaient car ne pensaient qu'à ça. Ce putain de pont, cette putain de propale, devenait obsessionnel, s'acceptait de la vie. Les semaines filaient, les enfants s'éloignaient, les maisons s'encrassaient et eux ne touchèrent bientôt plus d'autres corps que les leurs. Il y eut des surmenages, des dépressions, des fausses couches et des divorces, des enlacements sexuels dans les open space, mais ça ne rigolait pas. Ce n'était pas ludique. Juste une occasion, des larrons, et l'incapacité de résister à une promesse de plaisir quand la nuque craque et que les yeux ont cramé 12 heures sur les tableaux Excel, poussée de fièvre convertie en coït rapide, un peu n'importe quoi. Et finalement, bien qu'atrocement déçus à l'annonce de la proclamation, les recalés furent soulagés de s'en tenir là. Ils avaient vieilli. Ils étaient épuisés, nazes, morts, sans plus de jus que celui des larmes de fatigue qu'ils laissaient couler une fois seuls en voiture au retour du boulot, quand la radio passait un air de rock, un morceau gorgé de jeunesse ou d'envie de s'éclater, Go Your Own Way de Fleetwood Mac ou n'importe quoi des Beach Boys. Et la nuit venue, quand ils se garaient dans leur garage, ils ne sortaient pas tout de suite mais restaient dans le noir, feu éteint et mains sur le volant et projetaient soudain de tout laisser tomber, de vendre la baraque, de rembourser les crédits. Hop, tout le monde pieds nus, dans la bagnole et en route pour la Californie. Les autres, ceux qui travaillaient pour Ponto Verde, rentrèrent chez eux le soir de la proclamation, victorieux, la niaque. Ils avaient un pont à construire. Leur corps en santé incarnait le progrès. Leurs mains impliquées apportaient une pierre à l'édifice. Ils savouraient leur place en forme de destin, sûrs à présent d'être des acteurs du monde. Eux aussi s'éternisèrent dans leur véhicule, moteur coupé, les yeux rivés sur une feuille de laurier séchée contre le pare-brise et les bras croisés sur le ventre, bien adossés. Et eux aussi se tinrent en silence, à penser à leur expatriation future, à chiffrer leur carrière qui soudain accélérait parce qu'ils savaient acquiescer à l'opportunité, à évaluer les points qu'ils engrangeraient avant de rentrer au siège, afin d'y exercer des fonctions supérieures, à prévoir le réaménagement du service qu'ils prendraient en main, et encore à réfléchir au déménagement familial, ou à s'imaginer délocaliser célibataires commutant aux vacances scolaires. Eux aussi soudain sur le départ. Mais ce n'était pas un décrochage de tout, une virée. Pas vraiment des vacances. Il leur fallait maintenant prendre de l'élan et aller parler à leur femme, annoncer la nouvelle. Et certaines gonfleraient la poitrine de fierté et de joie. Elles étaient de bonnes compagnes, leur mari réussissait, il avait de l'envergure. Et rêveuses, elles s'imaginaient bientôt choyées par la compagnie, servies par de bonnes locales, une villa avec piscine, oui au moins ça, deux voitures, un jardinier, une nounou à plein temps, voire une cuisinière dévouée, le pied. Déjà, elles riaient et allaient réveiller les enfants, prêtes pour le joli bond dans l'échelle sociale. D'autres, estomaqués, rangeraient nerveusement la cuisine en silence, puis finiraient par lever vers leur mari un visage angoissé, car, chérie, comment allait-on faire pour la scolarité des aînés, pour les parents malades, pour l'orthophoniste du petit-dernier ? Et celles-là demanderaient à être rassurées, il faudrait refroidir leur l'affaire, promettre qu'elles auraient leur mot à dire dans tout ça, et faire savoir que l'on comptait sur elles. Quand, enfin, une poignée d'autres, et celles-là de loin les plus coriaces, allumerait une clope une fois lancée la machine à laver, puis schlac, elle ferait volte-face, se retournerait frontale, les fesses collées contre l'évier et la face curieusement éclairée par le plafonnier de la cuisine. Irréelle et pourtant marmoréenne façon Marlène Dietrich, un modelé ambigu qui les rendrait énigmatiques, abominablement lointaines, et celle-là sourirait en concluant d'une voix amusée « Je suis bien contente pour toi, mais moi je fais quoi là-dedans ?» Celle-là s'accrochera à leur boulot. Il faudra les convaincre, les travailler au corps, jusqu'à ce qu'un soir, leurs pieds consentent de nouveau à ramper sous les draps pour caresser celui de l'homme allongé auprès d'elles. Il faudrait ruser jusqu'à ce qu'elles accomplissent ce petit geste, cet effleurement de peau, un signe d'acquiescement subtil qui leur octroierait le monde. Et alors, ils triompheraient en silence, parfaitement immobiles, couchés sur le dos. Ensuite, une fois précisé le départ de la famille, la fébrilité gagnerait le foyer. Dans la foulée, il devrait encore résilier les baux, les contrats de téléphone et d'électricité, trouver des gardes de meubles, passer des visites médicales, puis dire au revoir aux amis, à la famille, enfin faire leurs valises et prendre la route de Coca. Et c'est exactement ce qu'ils firent fin août, début septembre. Ils ne furent pas les seuls à partir. Toutes sortes de gens se mirent en marche dans la nuit violette, et convergèrent vers la ville dont le nom de Soda jouait comme 1000 épingles corrosives dans leur bouche sèche. Les annonces qui tombaient sur la toile réclamaient câbleurs, ferrailleurs, soudeurs, coffreurs, maçons, goudronneurs, grutiers, monteurs d'échafaudage, monteurs levageurs, enduiseurs façadiers. Et ceux-là firent leur sac comme un seul homme, synchrone, la grande manœuvre, et prirent la route par tous les moyens. Une première vague s'enfourna dans des avions cargo affrétés par des boîtes prestataires de services spécialisées dans la sous-traitance de main-d'œuvre, et qui procédaient vite, usant du poncif racial en vigueur, préférant à ce titre le turc fort, le coréen industrieux, le tunisien esthète, le finnois charpentier, l'autrichien ébéniste, et le kényan géomètre, évitant le grec danseur, l'espagnol ombrageux, le japonais hypocrite et les slaves impulsifs. Et pour un baptême de l'air, les gars terrorisés dégobillaient leurs boyaux au fond de la carlingue. D'autres sautèrent à l'arrière des wagons de marchandises, illico secoués, le cul rebondissant contre le plancher comme sur un tatami. Ils se calèrent contre leurs sacs qui s'entrechoquaient, bientôt saoulés de bruit et de poussière, la tête baissée entre les genoux parce que leurs yeux pleuraient. Il y en eut encore pour monter dans ces autocars qui blindent la nuit sur les autoroutes, danger public conduit par des chauffeurs aux yeux exorbités, manque de sommeil, coke, transport de pauvres qui n'ont pas 300 dollars pour se dégoter une caisse sur le marché de l'occasion et donc se font ramasser comme les traînards par la voiture balai. Et voilà pourquoi ça pue tellement fort là-dedans, le velours des sièges imbibés de fatigue et de sueur froide, une odeur de pliés crevés. Et on sait tous que c'est là l'odeur de l'humanité. Et donc ceux-là vinrent se poser sur des parkings pourraves au sortir des villes et levèrent un bras morne pour que le chauffeur s'arrête. La nouvelle de l'ouverture du chantier avait fini par faire traîner de poudre et la ville miroitait déjà dans un coin de leur cerveau. Et enfin, il y en eut pour venir à pied, et rien ne semblait pouvoir les faire dévier de leur trajectoire. Ils rappliquèrent direct, comme des chiens, comme s'ils avaient suivi la piste d'un chiffon magique avec lequel on leur aurait frotté la truffe, quand d'autres étaient simplement des vagabonds,
Oui, des gens pour qui, ci ou là, finalement, c'était pareil, se faisaient une certaine idée de leur vie, et considéraient avec orgueil qu'ils avaient droit à l'aventure.
Merci beaucoup pour ce grand moment. Moi, je trouve ça plutôt bien de conclure sur la voix elle-même. Eh bien, je vais conclure en remerciant Maëlys d'avoir accepté de venir pour la première fois en 10 ans de carrière littéraire
Merci
pour nous parler
m'avoir
de ce
reçu.
Magnifique livre qui est Naissance d'un pont.
Merci beaucoup. Merci.